60, par exemple, les projets Otachik, Lieberman, Trapeznikov, l'originalité de Gorbatchev, c'est qu'il a compris que toutes les réformes, d'une part que la société avait besoin de réformes parce qu'elle était bloquée, ça j'y reviens pas, mais les indices étaient déjà là dans les années 70, quand on dit la stagnation, ce qui n'a pas toujours été le cas. Maintenant on oublie qu'il y a quand même eu un développement spectaculaire pendant des années à l'Union soviétique. On peut le critiquer, quantitatif, inégalitaire, mais enfin il a existé. Sinon on ne comprend pas le Spoutnik, y compris un certain rayonnement de l'Union soviétique bureaucratique, même dans le tiers-monde ou sur Cuba. Donc ça, on a tendance à oublier. Mais enfin, en revanche, dès le milieu des années 70, il y avait déjà régression de l'espérance de vie, enfin, des rendements décroissants. Donc ça se bloquait. Ça, dans des conditions assez bien prévues et par Trotsky et par Mandel et d'autres. Hein. L'originalité de Gorbatchev, c'était de dire les réformes économiques. Il y a eu des tentatives antérieures dans les années 60, mais elles ont toujours buté sur la rigidité du pouvoir politique. Donc il ne pouvait pas y avoir, de réformes économiques sans glasnost, sans élément de réforme politique. Mais dès qu'on mettait la question de la réforme politique sur le tapis, on ouvrait une boîte extrêmement centrifuge. Et là-dessus, alors, Mandel avait, je crois, raison de dire ou bien les réformes vont dans un sens libéral, ou bien il faut redonner une certaine cohérence dans ce que nous on appelait la révolution politique, entre un renouveau démocratique, des éléments d'autogestion, le maintien d'une planification. Mais là, les deux voies devenaient réellement contradictoires. Et une voie intermédiaire, ce qu'a essayé de faire Gorbatchev, une réforme contrôlée, bon, ne pouvait qu'exploser avec la question nationale en plus, que là on a sous-estimé, honnêtement. Le problème, dans ce qu'a écrit, je trouve que ce n'est pas un très bon livre d'Ernest, malgré tout le respect, le livre sur Gorbatchev était très optimiste. Ça, pour des raisons presque là, il y avait un conflit chez Ernest, bien connu personnellement, entre une lucidité liée à son histoire, une capacité d'analyse, et là, un conflit intime, hein, intérieur chez lui, entre une lucidité d'analyse d'un côté et en même temps un désir de croire. Il sentait qu'il vieillissait, bon, il allait mourir comme tout le monde un jour ou l'autre, peut-être il ne pensait pas si vite malheureusement, mais donc le désir de voir la révolution se remettre en marche comme si finalement après une longue parenthèse on allait retrouver la tradition. Il a fait un meeting, je dis entre nous, sur l'affaire de l'Allemagne à Paris, où j'avais honte, parce que c'était au moment de la chute du mur de Berlin, c'est le retour de Rosa Luxembourg, ça me paraissait déjà pas très raisonnable. Mais sur le diagnostic, il y a beaucoup de choses qui étaient justes. Maintenant, sur la volonté de croire qu'entre les différentes solutions possibles, la bonne l'emporterait rapidement, là, il y a eu un dérapage dont on peut comprendre les raisons humaines, enfin, qui était erronée.
Si on peut en fait résumer, d'après vous, où va aujourd'hui le bloc de l'Est? Est-ce qu'on peut dire que finalement le capitalisme, bel et bien, s'y est installé, ou on peut dire que ces sociétés sont toujours, demeurent toujours, dans une période de transition, auquel cas on est obligé, on est en droit de se demander ou de répéter la transition vers où? Est-ce que finalement la catégorie de la transition peut nous apprendre quelque chose de valable sur le présent et l'avenir prévisible de ces sociétés? Car finalement on peut dire toujours que toute société humaine est en transition.
Exactement.
Et en devenir quelque chose.
Moi je crois que c'est une notion commode mais pas rigoureuse, commode, hein, je l'utilise comme tout le monde, elle a quand même un avantage, c'est de penser, enfin en tout cas, de nous inciter à penser les processus dans leurs contradictions, au lieu d'essayer de ranger des catégories. Dans la tradition française cartésienne, le goût du rangement, c'est un état ouvrier, c'est un état bourgeois, etc. Bon, ça existe ailleurs, enfin chez nous, particulièrement fort et souvent formaliste. Donc, une catégorie peut-être moins précise, mais plus souple et pas inutile dans les bouleversements qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, pour dire ce qu'on peut en penser, je crois que d'un côté, par rapport à l'alternative telle que Trotsky l'a posée, par exemple, restauration ou révolution politique, maintenant, indiscutablement, la tendance à la restauration l'a emporté, ou l'emporte, parlons toujours en termes de processus, plus que de passé, l'emporte principalement d'un point de vue international. Comment l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, la Russie et les pays d'Europe de l'Est sont d'ores et déjà emportés dans la logique mondiale marchande. Ça me paraît de loin la tendance dominante. Maintenant, quand je dis qu'il faut penser le processus dans ses contradictions, c'est qu'en même temps, le processus n'est pas complètement abouti et consommé en Union soviétique. Le rétablissement d'un marché du travail normal, par rapport au pronostic optimiste des libéraux en 89-91 sur ça va être une pénétration du capital en Eldorado, on voit la difficulté qu'a eu le capital allemand à assumer le coût de l'unification allemande, alors qu'il y a une légitimité d'État, que les proportions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, en Union soviétique, en ex-Union soviétique, on voit quand même la difficulté. L'accumulation, l'investissement international reste très limité, d'abord parce qu'il n'y a pas confiance. L'investissement interne, l'accumulation interne a des formes mafieuses qui sont tout à fait inédites et bizarres, bon, avec des éléments de décomposition forte, ça, la description existe un peu partout. Et je crois qu'il faut rester un peu curieux parce qu'il y a un phénomène inédit. On peut dire qu'il y a certains aspects comparable à des pays du tiers-monde, mais même ça, la comparaison ne marche pas tout à fait, parce que ce n'est pas la tiers-mondisation de pays, de grands pays comme le Brésil ou d'autres, qui partent d'un développement agricole, mais c'est la tiers-mondisation d'un pays qui est un pays urbain et industriel, donc avec des formes de crise, finalement, qu'on ne connaît pas ailleurs dans le monde, qui sont quelque chose d'inédit. Moi, je ne me risquerais pas à faire des pronostics, mais enfin, malheureusement, un des scénarios très possibles, c'est quand même une forme autoritaire de gestion d'un chaos social, bon, qui peut rester en transition, si on accepte d'utiliser le terme, assez longtemps, mais dans des formes chaotiques, et donc comme le monde ne peut pas rester déstructuré comme ça, risque fort d'avoir un pouvoir autoritaire, un libéralisme militaire, finalement, après tout, c'est pas inimaginable, même à une échelle grande comme ça. Ben, ça dépend tellement de facteurs qu'on ne peut pas tous maîtriser. Qu'est-ce qui va se passer avec la crise, par ailleurs, dans les métropoles libérales elles-mêmes? Ben, les miracles finissent les uns après les autres. Ben, le miracle coréen, le miracle japonais, le miracle allemand. Ben, personne ne sait comment tout ça peut se combiner. Dans le moyen terme, dans les 10 ou 20 ans. Mais enfin, pour le moment, malheureusement, il y a une course de vitesse, mais qui est aussi à une autre échelle, sous une autre forme, chez nous, puis là, par exemple en France. C'est que, entre les rythmes de la crise et les effets destructeurs, hein, mafia, exclusion, crise urbaine, etc., et les rythmes de réorganisation du mouvement social, c'est déjà un problème. Et même dans un pays comme la France, c'est très dangereuse, la désynchronisation, l'écart entre des formes de résistance, même de remobilisation sociale, et les rythmes de réorganisation politique sont plus compliqués, encore plus lents. Alors, j'imagine, dans des pays comme la Russie, c'est un problème terrible là-dessus. Franchement, je ne suis pas très optimiste, bon, mais en même temps, le monde est comme il est, il faut bien se battre.
Vous avez justement parlé de la difficulté de parler souvent de la transition. Si vous permettez, je sais que le temps passe aussi.
Non, mais de toute façon, là, J'attends les copains qui j'ai réunion, donc bon, maintenant ils ne sont pas là.
D'accord, on va donc.
Ils passent me prendre, on doit aller sur une réunion, mais ils passent ici, donc on verra bien.
Ah, vous êtes de votre patience, c'est bon.
Non, oui, oui, allez-y. Bah, on est là, on est là.
Et, en fait, par là, je voudrais faire allusion au deuxième problème que vos dernières positions soulèvent. J'entends par là la question de l'histoire. Dans Marx, l'intempestive ainsi que la discordance des temps, vous consacrez de longs passages très brillants à la question essentielle, à la question philosophique de Froger, en tant qu'il appartient en fait au domaine de possible. Votre conclusion, il me semble, va vous résister manifestement à toute tentative, toute vision téléologique de l'histoire. Cependant, il paraît que pour vous, le communisme comme la réalisation d'une possible liberté en plein sens du terme, oui, finit par se transformer en la promesse d'un messianisme de plus en plus sécularisé. J'espère que je ne m'étais pas trompé à ce sujet. Comme vous le signalez vous-même, autre dernier explore que sa conception de l'utopie, vous vous êtes laissé accompagner également par Walter Benjamin, surtout sa conception de matérialisme historique. C'est d'ailleurs côté justement ce qui vous approche, il me semble, de certaines positions de Jacques Derrida, notamment dans les spectres de Marx sur les questions semblables. Les questions que j'aimerais vous poser en fait sont donc les suivantes. Pourquoi, quel a été pour vous l'intérêt politique et théorique d'introduire un certain messianisme d'inspiration judaïque dans une herméneutique?
Bonjour. Je finis avec. Attention.
C'est pas grave.
Je finis et on attend Alain, on y va.
Donc, je répète ma question. Ouais. Quel a été pour vous l'intérêt théorique et politique d'introduire un messianisme d'inspiration judaïque dans une herméneutique marxiste de l'histoire, dans une interprétation marxiste de l'histoire? Et puis, deuxième question, comment il était possible? Comment il est possible de considérer le communisme comme une promesse messianique plus sécularisée sans tomber de nouveau dans le piège d'une vision téléologique de l'histoire avec toutes les conséquences négatives que cela peut impliquer? Or, on a un messie, un leadership charismatique qui est capable de mener l'humanité vers l'air.
J'ai peut-être eu tort parce que c'est effectivement, dès qu'on emploie le terme, c'est un peu dangereux parce que le terme de messianisme, même si on lui donne un sens sécularisé, même avec Walter Benjamin, ça peut provoquer des malentendus. Alors, je trouve que, effectivement, c'est parti de Walter Benjamin qui, lui, a un mélange qui est dans la double tradition du débat avec Gershom Scholem sur la tradition juive et en même temps d'un réel intérêt pour le marxisme. Beaucoup de gens considèrent que ses références au matérialisme historique, c'est une coquetterie. Je ne crois pas du tout. Il a pris au sérieux. Hein. Mais bon, alors, je crois que c'est une des figures, avec Gramsci, d'ailleurs je le dis assez longuement, qui représente dans la période difficile des années de l'entre-deux-guerres, qui apporte des éléments de relecture d'un marxisme non mécanique, non déterministe et non téléologique. C'est pour ça. Alors, le messianisme de Benjamin est essentiellement à cause de la dernière thèse sur le concept d'histoire, sur la porte entrouverte. Je l'ai interprété d'une part plutôt dans le sens de la présence du possible, non pas la venue évidemment d'un messie, mais la présence du possible, donc de plusieurs possibilités historiques ouvertes, un encouragement à l'action, à la responsabilité, non pas à la passivité. Et puis, l'autre sens qu'il lui donne, qui est le renversement, nous attendons pas seulement une libération messianique, mais nous avons un rôle messianique à jouer par rapport aux vaincus, au passé, à redonner du sens au passé. C'est dans ces deux sens-là, au risque d'être mal compris. Alors évidemment, derrière, il y a une réactivation d'un aspect, je crois, souvent dans le langage courant, il y a un malentendu sur la prophétie. Je dis, bon, c'est Steiner, Benjamin, la prophétie est conditionnelle. C'est la catastrophe qui arrivera si on ne fait rien pour changer. Bon, les prophètes de type Jérémie, c'est l'abandon de la tradition qui conduit à la catastrophe. Il est encore temps d'empêcher la catastrophe. Bon, je l'ai pris dans ce sens-là, effectivement. Bon, j'avais travaillé sur Benjamin avant, j'ai découvert des échos, des parallélismes dans le bouquin de Derrida. Tout à fait, mais je crois que si on le prend dans ce sens-là, il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça en a. Je ne crois pas que ça réintroduise une vision de fin de l'histoire.
Non, parce que vous allez manifestement à contre.
Oui, à contre ça. Mais je crois que c'est un point d'appui critique important. Bon, ben, écoutez, ce que je vous propose, parce que là, il va falloir qu'on y aille. Ça fait déjà pas mal de choses, hein. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous utilisez comme vous voulez. C'est déjà beaucoup de travail pour vous. Je ne sais pas comment vous comptez faire. Vous allez.
En fait, nous allons publier le prochain numéro de ce Morte.
Oui.
Et il y a d'autres entretiens, notamment avec Paul Suzy, Magda, Péchard, Veterin, Angela Davis. Oui. On va publier des extraits de ces entretiens dans ce journal.
Oui.
Et puis, les textes intégrales de ces entretiens seront publiés séparément dans un livre, dans le livre Mortier, qui seront publiés.
Parce que si vous voulez, ça dépend. J'ai beaucoup de travail là en ce moment, donc on peut en discuter un jour. Mais vous allez travailler, vous allez décrypter directement en iranien ou en anglais.
D'abord en persan.
D'abord en persan.
Oui. Parce qu'on est aussi pressé, il faudra
que je vous demanderai éventuellement, mais c'est pour vous aider, hein, c'est si vous pouvez faire un double de la cassette en français.
Sûrement.
Parce que je peux peut-être, à votre demande, quand vous aurez fait en persan, reprendre certains trucs, les développer ou les compléter pour vous. Peut-être ça peut me servir, moi, pour travailler pour d'autres choses. Et si ça vous est utile, on peut déjeuner ensemble un jour tranquillement pour discuter d'abord sans avoir besoin des magnétophones.
Ça, je pourrais l'arrêter d'ailleurs. Hein.
Oui, d'accord. J'ai une petite fiche, sinon il n'y a pas besoin d'enregistrer. D'accord.